I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Salut à tous et bienvenue pour ce 489e numéro du podcast Touchdown Actu, émission Draft, qui fera la part belle à l'attaque aujourd'hui et à ces quelques énigmes à la veille, à quelques jours à peine du prochain Scouting Combine, le retour du Combine et de l'évaluation, on va dire, des meilleurs joueurs universitaires, seniors ou underclassmen, donc voilà, junior, sophomore, etc., du côté d'Indianapolis après une année off. En raison de crise sanitaire, ça ne vous aura pas échappé. On a eu une actualité un petit peu mouvementée d'ailleurs par rapport à ces histoires de bulles sanitaires ces derniers jours, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais donc, on va s'intéresser à l'attaque et à différents points intéressants à suivre au cours de ces prochains jours et au cours de ces prochaines semaines. Qui est le vrai pari au poste de quarterback au premier tour? Est-ce qu'un running back ou un tight end peut être drafté dès le jeudi? Qui est le meilleur receveur d'Alabama? Et bien entendu, vos questions que vous nous avez posées, notamment par le biais des réseaux sociaux, tout ça en compagnie de mon camarade Victor Roulier. Salut Victor.
Et salut Grégory, salut à tous.
Un grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle émission Draft. On va parler dilemme au cours de ces prochains jours. Pour planter, je le disais, un petit peu le décor avant les événements d'Indianapolis, on parlera de la défense également la semaine prochaine. Il y aura également pas mal de choses à évoquer, mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notamment la question des quarterbacks et le vrai pari du premier tour.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Raison bien simple, Victor, on a globalement, depuis le début de la saison, six quarterbacks qui ressortent en grande partie dans les différents boards. On sait que globalement, Matt Corral et Kenny Pickett ressortent dans le top 15. C'est d'ailleurs ce qui avait été mis en avant lors de notre mock draft de la semaine passée. On a Sam Howell qui flirte entre la fin du premier et le début du deuxième, surtout après un combine un peu plus anecdotique que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis, on a un Carson Strong également qui a perdu beaucoup de points du côté de Mobile et qui se retrouve, lui, plutôt aux alentours du deuxième. Ça nous laisse avec deux cas de figure aujourd'hui, deux joueurs qui ont pu crever l'écran à des occasions différentes. Le premier, c'est Malik Willis, quarterback de Liberty, qui a eu une saison un peu mi-figue, mi-raisin, si je peux reprendre l'expression, mais qui a clairement marqué beaucoup de points du côté du Senior Bowl. Et puis de l'autre côté, on a un Desmond Ridder qui a fait un exercice extrêmement solide du côté de Cincinnati, mais plusieurs mois assez solide. Mais là encore, on a du mal à évaluer exactement à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire vraiment à un premier tour en puissance ou à un joueur vraiment purement En développement, alors je vais juste rappeler très rapidement les stats avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer peut-être par Desmond Ridder, justement, de par sa production un peu plus intéressante en 2021 du côté des Bearcats. Desmond Ridder, je le rappelle, c'était donc 3334 yards à la passe, 30 touchdowns pour 8 interceptions, sachant que sa mobilité, qui va nous intéresser, lui avait permis d'engranger 355 yards et 6 touchdowns au sol. Donc ça, c'est les stats de son côté. Rappelle-nous un petit peu clairement ce qui peut jouer en la faveur de Desmond Ridder, on va dire les points positifs qui sont mis en avant avant que je plante le décor vis-à-vis de Malik Willis.
Oui, bah Desmond Ridder, c'est ce quarterback assez moderne finalement, parce que athlétique, puissance de bras, tu l'as dit, bon coureur. Il faut toujours rappeler que les stats à la course en NCAA, on retranche les yards que tu prends au niveau des sacs. Hein. Donc, c'est même, ça serait même plus élevé que ça si on prenait les standards NFL. Il a plutôt, je trouve, un bon QI football. On va dire qu'il maximise son talent. Par contre, pour moi, il y a un gros problème, c'est la précision. C'est vraiment le vrai problème pour lui. Et il a un côté un peu... Peut-être pas gambler, mais il aimait bien de temps en temps chercher de gros jeux là où il pouvait faire un petit gain. Bon, après, Cincinnati s'est tellement baladé dans sa conférence qu'il savait que ça ne porterait pas forcément. Ça n'aurait pas été un gros problème. Il a été plus propre dans la finale de conférence, etc., dans des matchs qui comptaient. Mais voilà, parfois un peu trop d'agressivité et trop envie de faire de gros jeux à tout prix.
Alors, Malik Willis, juste pour contextualiser, donc quarterback de Liberty, cette saison, c'est 2857 yards à la passe, 27 touchdowns pour 12 interceptions. Et au sol, il a été le meilleur running back des Flames, puisqu'il termine la saison avec 878 yards et 13 touchdowns. Qu'est-ce qu'on peut mettre à son crédit à Malik Willis du côté de Liberty ?
Bah, tout ce que j'ai dit pour Desmond Ridder, en mieux. C'est-à-dire, il est athlétique, encore plus athlétique que Ridder. Il a une puissance de bras encore plus puissante que Ridder. Il court encore mieux. Et en plus, petit nuggets en plus, il a un release qui est beaucoup plus rapide. Alors, ce qu'on appelle le release, c'est en fait tout le mouvement de lancer. Forcément, plus vous lancez vite, moins vous avez besoin de temps et plus vous pouvez faire les actions. Et il n'y a pas besoin forcément d'être ultra athlétique. Big Ben Roethlisberger, lançait extrêmement vite, par exemple. Là où d'autres ont besoin d'une mécanique un peu plus longue. Donc, je dirais que c'est la version au-dessus de Desmond Ridder.
Un point intéressant que tu soulevais par rapport à Desmond Ridder, justement, est-ce qu'on n'est pas, notamment sur la question de Ridder, parce que moi, je vais le dire tout de suite, hein, on va évoquer un petit peu nos préférences, etc., etc. Je sais qu'en interne, notamment, et de ce qui ressort des échos, des insiders, etc., Ridder a une certaine cote. Donc, je le répète, c'est aussi le cas dans une partie de la rédaction de l'équipe draft de TDA. Moi, j'avoue que je trouve que ça a été un excellent gestionnaire du côté de Cincinnati, mais qu'il a, à mon sens, il a peut-être eu du mal. Il a été le curseur indéniable de son équipe, et ça s'est vu dans certains matchs un peu couperets de Cincinnati l'année dernière. Je pense au fameux match décisif du côté de Notre-Dame, par exemple, où on voit que quand ça ne tourne pas bien, bah, Cincinnati est vraiment au bord du gouffre. Et dès qu'il commence à reprendre confiance, le momentum est assez délirant. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette fameuse logique des cases qu'on coche, dans le sens où Desmond Ridder, mine de rien, dans une cuvée, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans cette classe de quarterback, c'est qu'on est quand même beaucoup dans une classe de QB petit, ou en tout cas relativement petit. Il y a beaucoup de quarterbacks autour du 1m85. Est-ce qu'on n'est pas aussi avec Desmond Ridder dans ce côté extrêmement prototype? C'est-à-dire un des rares joueurs, je crois que c'est le plus grand des principaux quarterbacks avec Carson Strong, je crois qu'il doit tourner aux alentours du 1m93 dans ces eaux-là. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui rassure les observateurs, au-delà encore une fois de son côté purement leadership et solide gestionnaire, en attendant pourquoi pas de voir plus?
Oui, c'est alors bon, pour Willis, je nuancerai un peu après, on a dit des bons côtés, on va revenir dessus, parce que tu l'as dit, Willis, il est un peu devenu presque le quarterback numéro un de la plupart des mecs de la presse. Mais pour revenir sur ta question, je pense que Ridder, en tout cas moi, de la manière dont j'imagine, c'est quelqu'un qui a quasiment déjà atteint son plafond, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange avec Ridder. c'est que c'est un bon joueur, vraiment, c'est un bon joueur. Mais il faut bien se rendre compte que si on continue la comparaison avec Willis, Willis, il n'avait pas de ligne offensive, il avait des cibles moyennes, il n'avait pas de coureur. Reader, il était dans la meilleure équipe du Power 5, hein, puisqu'ils sont même allés en play-off. Il avait une ligne, il avait un coureur extraordinaire, et il avait des super receveurs. Enfin, des super, par rapport à, au mec qui...
Un très bon qui est supposé atterrir peut-être dans les trois premiers tours de la draft.
Voilà, donc quand même, Reader, il a été aidé. Il n'a pas souvent été mis dos au mur. Et dans les matchs comme Notre-Dame, dans les matchs comme Houston ou même en play-off, c'est pas particulièrement lui qui a fait la différence, quoi. Donc, c'est un bon gestionnaire. Moi, je dis tout de suite, bon, j'aime pas cette QV. Pour moi, si le poste de quarterback n'était pas aussi important, j'en mettrais aucun au premier tour. Mais on sait comment ça marche. Si on aura au premier tour, vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est un super quarterback numéro 2. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer step up au point d'être un quarterback titulaire en NFL. Je pense que c'est un manager qui a déjà atteint son plafond ou presque. Et alors, à moins d'un système qui le magnifie vraiment, j'ai l'impression qu'on a déjà tout vu de Reader.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je cherchais... C'est jamais un exercice que j'aime et que je trouve extrêmement pertinent, mais je cherchais des comparaisons éventuellement pour voir un petit peu où je pourrais passer le curseur sur Desmond Reader. Il y a beaucoup de similitudes dans son jeu, alors ça va peut-être en faire hurler certains, avec, et je parle en sortie d'université, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec Carson Wentz. Ce côté, encore une fois, extrêmement leadership, capable de mener son attaque, qui n'est pas en termes de précision le plus parfait de sa classe, mais où tu sens que, comme je disais tout à l'heure, sur des moments, il est vraiment capable d'élever le niveau de son équipe. Mais c'est vrai que, alors peut-être qu'à l'époque, quand Wentz est sorti de North Dakota State, il y avait peut-être un plafond plus notable qui a l'air de, entre guillemets, le sous-entendre, enfin en tout cas, qui a l'air de démontrer le potentiel de Reader. Mais c'est plus dans ce sens-là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut réussir à en obtenir. Et pour continuer sur la comparaison, en effet, c'est vrai que clairement, pour prendre cette comparaison-là, on est vraiment sur une différence plancher-plafond parce que moi, Malik Willis, je vais le dire tout de suite, et ça va cramer sa carrière à tout jamais, vous pouvez en être sûr, j'aime beaucoup le joueur. Et si on reprend les fameuses cases à cocher par les équipes NFL, là, on n'a peut-être pas le prototype de taille, etc., parce qu'il est un peu plus petit, mais la puissance de bras, elle est là. La mobilité, on n'en parle même pas parce que voilà, il y en a des quarterbacks mobiles. Un Reader est mobile. On en avait déjà parlé. Howell, par exemple, sait être mobile. Corral également, d'une autre manière. Mais vraiment, la principale chose qu'a démontré Willis du côté de mobile, c'est vraiment son explosivité dès qu'il y avait la moindre brèche à exploiter. Et ça, on sait qu'en NFL, dans la NFL actuelle, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Au-delà de la question, voilà, je le répète, de la puissance de bras et de la capacité à pouvoir improviser.
Alors, bon, déjà, puisque tu aimes bien, on sait qu'il va être nul. Ça, c'est quand même la première chose, donc c'est assez rassurant.
Donc, première breaking news de l'émission.
Je vais expliquer déjà pourquoi Willis, je ne peux pas. C'est que déjà, pour moi, ça manque de QI football. Je pense que c'est Jameis Winston, en fait. C'est-à-dire que son plafond, c'est 30 touchdowns et 30 interceptions. Moi, je trouve qu'à mobile, donc au Senior Bowl, quand on dit à mobile, c'est au Senior Bowl hein, pour des gens, il a sûrement fait les 5 lancers les plus impressionnants et il a sûrement fait les 5 pires. Et en fait, j'ai l'impression que Malik Willis, c'est vous jouez à roulette russe, vous avez 6 espaces dans votre pistolet, vous mettez 3 balles et il y a une chance sur 2, quoi. Globalement, c'est à peu près pour moi, il me fait extrêmement peur. Je trouve qu'il a une gestion de la poche qui est très mauvaise. Alors là-dessus, je nuancerai parce que, comme je l'ai dit, sa ligne était tellement nulle.
Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je te rejoins sur la comparaison Winston. Mais Winston à Florida State, il avait 15-20 fois plus que ce qu'avait Willis. Donc après, le côté je force les jeux, il y a peut-être aussi un début d'explication par rapport à ça. Mais j'entends tout ce que tu as dit au préalable.
Non, mais ça, c'est sûr. Je veux dire, c'est pour ça que, par contre, là où je te rejoins totalement, c'est que Malik Willis, je ne l'ai même pas dans mon top 4 des quarterbacks actuellement. Par contre, si tu me demandes qui a le plus gros plafond, je te réponds Maddie Quiddis.
Des deux ou des six?
Des six. Je pense vraiment que s'il y en a un qui doit exploser et devenir vraiment un super quarterback, ça sera lui. Sauf que je pense que ça, c'est un scénario peut-être 20% probable.
Est-ce qu'on est dans un... Bah, vas-y, je te laisse terminer.
Ouais, mais... et les 80% autres, on va dire que soit c'est Jameis Winston, genre c'est fun, c'est finalement assez talentueux, mais ça ne gagne pas de match, ou en tout cas, ça ne gagne pas en play-off. Et le plus mauvais scénario, c'est Dwayne Haskins.
Bah alors, moi, pour reprendre une circonstance récente, est-ce qu'on n'est pas typiquement dans un cas de figure un peu à la Trey Lance, où ce n'est pas le joueur de quarterback qui doit tomber, enfin, qui doit tomber dans un bon coaching staff. N'importe quel quarterback, de toute façon, doit tomber dans un système préférentiel pour mettre en avant ses qualités, à mon sens. Mais est-ce que ce n'est pas mieux, entre guillemets, d'essayer de le façonner si on l'aime bien, de lui laisser vraiment une année d'observation? Alors, Mahomes, le cas est un peu différent, très clairement. Mais comme ça a été fait avec Mahomes, comme ça a été fait l'année dernière avec Trey Lance également, est-ce qu'on n'est clairement pas dans ce prototype-là? Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, par exemple, chez les Falcons. Une année derrière Matt Ryan, est-ce que c'est forcément de la folie?
C'est pas de la folie, mais après, les Falcons, c'est quoi? Ils piquent en 8 ou en 9?
Oui, 8.
Ça paraît quand même vraiment haut. Après, il y en a qui te diront que c'est jamais trop pour un quarterback, que si tu penses que c'est ton lanceur du futur, il faut y aller. Et en soi, je les comprends, c'est la position la plus importante de la NFL. Donc, si tu y crois, oui, j'ai envie de dire que Trey Lance, c'était encore pire comme pari, oui. Parce que vraiment, Trey Lance, c'était 17 matchs à North Dakota State. Enfin, c'est vraiment
oui,
le pari.
Il y avait le côté zéro interception et grosse mobilité, mais c'est vrai que.
Non, mais c'est principe, le pari ultime, Trey Lance. On verra ce que ça donne. Hein. Ça deviendra peut-être un quarterback légendaire, ça deviendra peut-être un buzz. Hein. Tout est ouvert. Par contre, oui, moi, j'imaginais beaucoup plus bas, mais je me disais, par exemple, une équipe comme les Lions, qui aujourd'hui, théoriquement, pique en 32, puisqu'ils ont suivi des Rams.
Tout à fait.
S'ils montent un petit peu, imaginons qu'ils font un petit trade-up à la Jordan 9.
Bah, surtout que normalement, ils ont 32 et 33, si je ne dis. Et ça. 34, pardon.
32 et 34.
Ouais.
Donc, s'ils décident de monter un petit peu, etc., imaginons que Willis tombe un peu, tu vois, Corral et Piquet ont été pris, on est vers 22-23, Willis est toujours là, bah, tu peux aussi te dire, tiens, un an derrière Jared Goff, qui a l'air quand même d'avoir la réputation d'être un mec plutôt... Enfin, tu vois, il y a quand même des gars... Bon, il a réussi malgré tout, mais quand tu te retrouves derrière un Brett Favre ou un autre, tu te dis, bon, il va pas m'apprendre
grand-chose. Oui, puis Jared Goff a mieux tourné en fin de saison quand Dan Campbell a repris la main, donc globalement, on peut se dire qu'il peut...
Voilà.
Essayer de rêver dans un premier temps.
Je veux dire, Jared Goff, il n'est pas bête. Hein. Il sait qu'il n'est pas là pour 10 ans, mais je pense qu'il cohabiterait très bien avec un quarterback rookie. Donc voilà, ce genre d'équipe. Mais en effet, les Falcons, ça peut faire sens. En effet, les Steelers peuvent faire sens. Et alors là, je vais faire hurler les Steelers, désolé, hein, parce que dans ce cas, vous avez passé une année de merde. Mais pourquoi pas prendre un an derrière Mason Rudolph, tu vois, histoire de le protéger. Non, mais histoire de le protéger, tu vois. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, pour moi, le prototype de là où il faut tomber, c'est Mahomes Kansas City, c'est-à-dire Andy Reid, et Alex Smith, tu vois, le genre de bon mec qui va t'aider à progresser, quoi. Donc non, j'aimais bien les Lions, et on verra, mais il y a beaucoup de possibilités, ça c'est sûr.
Ouais, très clairement. Du coup, on va enchaîner sur le reste quand même, parce qu'on ne va pas faire trop long sur les quarterbacks. Aujourd'hui, Monsieur Roulier, vous êtes général manager d'une franchise NFL, vous êtes à la fin du premier tour, et il n'y a plus que ces deux quarterbacks-là, et vous devez absolument sélectionner un quarterback, vous n'en avez pas dans votre effectif. Est-ce que vous partez plus sur Malik Willis ou sur Desmond Ridder?
Sur Willis, parce que Ridder, comme je l'ai dit, je pense qu'on rentre dans un purgatoire qui ne s'arrête jamais. Donc, je prends le risque Willis, il y a peut-être 20% de chance, mais au moins, je les prends.
L'art de la formule, c'est Victor Roulier. On va passer notre deuxième sujet.
Et toi, attends. Ah non, tu
es moi, oui. Bah, tu es notre chroniqueur expert. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, oui, je préfère Willis, mais pour les raisons que tu as évoquées, en effet, il y a peut-être un peu plus de possibilités à long terme que ne peut l'offrir Ridder.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
sujet dans l'émission. On reste sur une perspective premier tour, mais sur d'autres positions. Le poste de running back et de tight end. Une autre raison pour laquelle je suis très heureux que tu sois là. Puisque du coup, j'ai déjà la moitié de la réponse à ma question. Mais donc, j'avoue, au petit jeu des big boards, j'essaye de voir un petit peu qui a le potentiel d'un premier tour. Et je dois avouer qu'aujourd'hui...
je sens que tu vas me faire plaisir. Vas-y, continue.
Les postes de running back et de tight end, de par mine de rien, leur homogénéité globale, j'ai du mal à cibler vraiment un premier tour en puissance, clairement, sur ces deux positions. Donc, sur le poste de running back, tu vas peut-être nous faire un petit passage rapide pour confirmer ce que tu dis, mais très franchement, de toute façon, ce n'est pas une classe glamour. Tu parlais de la classe des QB, je pense que les running, on est encore en deçà en termes de niveau et d'explosivité dès la première saison, en tout cas d'impact vraiment pour être un running back leader en termes de yards dans la ligue et surtout sur le long terme. Mais c'est surtout la question des tight ends qui m'intéresse parce qu'on a une grosse classe de receveurs, mais on a l'impression que vraiment les possibilités sur le poste de tight end, ça se joue sur les doigts d'un doigt pour le statut de premier tour. Ouais.
Oui. Alors, pour les running backs, bon, c'est vrai que de base, je le répète tous les ans, pour moi, les running backs, ce n'est pas au premier tour, ce n'est pas au second tour, ou encore au second tour si vous avez des marges, mais pour moi, c'est vraiment un poste qui n'est pas durable. C'est un poste, donc beaucoup de blessures, beaucoup d'incertitudes, de plus en plus d'équipes sont en comité, donc ça rend encore moins précieux d'avoir un running back. Alors oui, il y a des contre-exemples, il y a Derrick Henry, tout ça, mais il n'y en a pas tellement, des contre-exemples. Il y a plus de Saquon Barkley.
Tu prends le dernier Super Bowl, tu avais une équipe qui jouait en comité contre une équipe qui avait un running back numéro 1, par exemple. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est sûr que je te rejoins, c'est une mode qui est de plus en plus présente, on est d'accord.
C'est ça. Et je veux dire, il y a deux ans, c'est Leonard Fournette contre Clyde Edwards-Helaire, tu vois. Ce n'est pas non plus le top du top. Mais bon, voilà. Moi, globalement, c'est vrai que de base, je suis plutôt contre les running backs dans le top 50. Mais par exemple, l'année dernière, tu me dis, moi j'ai envie de Najee Harris, moi j'ai envie de Travis Etienne, je te dis, ok, tu vois, si tu es vraiment amoureux de joueur, vas-y, il vaut un premier tour. Là, cette année, vraiment, il n'y en a aucun qui vaut un premier tour. Même sans compter mon aversion pour les.
Alors déjà, parce que ça peut intéresser nos auditeurs, qui est ton running back numéro 1 ? Parce que déjà, rien que ça, pour moi, c'est difficile. Moi, j'irais plus vers Kenneth Walker, mais franchement, ça ne se joue pas de...
J'irais vers Kenneth Walker. Le problème, c'est qu'il sait courir, mais il ne sait pas recevoir et il ne sait pas bloquer. Donc déjà, ça te limite quand même vachement. Donc, oui, Kenneth Walker, mais bon, encore une fois, pas au premier tour. Après, pour la position de tight end, personnellement, Widermeyer, c'est non au premier tour. Pour toutes les raisons qu'on a expliquées dans le podcast.
Oui, on vous renvoie sur le podcast Tiden qu'on n'a pas fait il y a longtemps. C'est vrai que les quarterbacks, ça permet de voilà, redistribuer un peu. Quand on l'a fait il y a un mois et demi, deux mois, au moins les Tiden, là, ça peut... Voilà, il y a quand
c'était
même
il y a
un échange
ou...
assez récent. Ouais.
Trey McBride, personnellement, j'aurais du mal à le sélectionner au premier tour si c'était un GM, mais je pourrais très bien comprendre qu'une équipe soit tombée amoureuse et le sélectionne au premier tour. Fin de premier tour. Hein. Mais ça ne me choquerait pas. Tu vois, une équipe très aérienne qui aurait déjà des bons receveurs et qui dit « je veux vraiment ajouter une arme de plus pour rendre mon attaque aérienne létale. » Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas, tu vois, ça ne me choquerait pas. Par exemple, Tennessee, tu vois, ils ont A.J. Brown et Julio Jones. Dire, mais attendez, on va vous rajouter un mec au milieu du terrain. Lui aussi, il va falloir surveiller parce que si vous êtes focus sur les deux receveurs, il va vous mettre 100 yards dans la tronche. Eh bien, tu vois, un Tennessee qui me dit au premier tour, je prends Trey McBride, pour moi, ce n'est pas leur priorité, mais ça ne me choquerait pas et je comprendrais la logique.
Le seul petit bémol pour Trey McBride, mais ça, c'est pas juste pour recontextualiser encore une fois le profil. Je le répète, il y a eu un podcast en ce sens, mais voilà, parce que je vais leur donner ses stats, c'est 1121 yards cette saison, c'est un seul touchdown. Donc, on le répète, c'est dans une attaque qui était quand même assez catastrophique, notamment dans le domaine aérien. Mais ouais, il y a peut-être aussi un défaut de finition qui peut jouer contre lui si une équipe veut le drafter au premier tour. Mais clairement, Surtout avec potentiellement 4-5 quarterbacks qui peuvent être draftés au premier tour parce que c'est une position, encore une fois, comme on l'a dit, surévaluée. C'est possible qu'au-delà des running backs qui ont moins la cote, il y a aussi des tight ends qui en payent les pots cassés et où le premier profil rentre plutôt dans cette fameuse catégorie du début de deuxième jour où il y a des équipes qui s'activent et qui se disent « Bon, il y a encore tous les tight ends sur le board, comment on fait ? Est-ce qu'on se précipite ? Est-ce qu'on tente le coup ?» Les Jaguars, par exemple, qui sont 33e, ont des besoins de tight ends. De mémoire, oui, les Jets aussi, ça ferait pas tâche. Donc, très clairement, ça peut. C'est vrai que, ouais, je te rejoins globalement. C'est vrai que début deuxième tour, ça me paraîtrait pas du tout étonnant. Entre les spots 33-40, il y en aura forcément un dans le top 40, je suis quasiment sûr. Premier tour, ça me paraît un peu compliqué, surtout quand on voit que les postes de quarterback et de receveur vont vraiment, je pense, et tackle, parce que fin de premier tour, c'est toujours quand on a des incertitudes offensives, on va toujours sur un tackle s'il y a un besoin. Donc, ça risque de vampiriser peut-être un petit peu l'attention.
Oui, edge aussi peut vampiriser parce qu'il n'y a pas que des edge de top 10. Il y a aussi pas mal de edge qui peuvent être fin de premier tour. Mais tu vois, je suis d'accord sur la séparation sur les tracés courts et moyens. Mais bon, je veux dire, le quarterback, c'était un charcutier. Enfin, à part lancer des saucisses, il ne faisait pas grand-chose. Et le reste, je pense, c'était des mecs qui étaient facteurs dans la vie et qui venaient juste jouer dimanche. Donc, il était quand même sacrément seul. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment le pénaliser du manque de touchdown quand on voit l'état de l'équipe en général.
Oui, ouais, non, ça, on est d'accord. Après, le tight end remplaçant, par exemple, finit à 5 TD. C'est ouais. Là où c'est ce que je veux dire. C'est...
Mais il faisait que ça. Mais oui.
Il faisait que ça. Il était principalement utilisé en red zone. Non, c'est sûr, mais voilà. C'est peut-être. Moi, je te dis, c'est juste si j'essaie de me placer d'un point de vue réflexion des franchises. Après, moi, je trouve totalement. Je pense qu'ils ne sont pas complètement aveugles. Et je pense qu'ils auront remarqué que l'attaque de Colorado State cette saison, ça a d'ailleurs coûté la place au head coach des Rams. C'est pas non plus. Voilà. C'était pas la panacée, comme dirait l'autre.
C'était pas la meilleure équipe des Rams cette année.
Tout à fait. Un petit point tackle à présent, avant qu'on aborde notre mini chapitre receveur, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, on a trois principaux noms qui ressortent du chapeau. Evan Neal, donc tackle d'Alabama, je sais que tu l'adores. Akeem Ekwonu, tackle d'NC State. Et Charles Cross, tackle de Mississippi State. Alors, j'ai choisi de mettre un petit peu l'emphase justement sur le tackle des Bulldogs, donc le dernier cité. C'est souvent celui qui revient comme le troisième. Après,
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Seulement, c'est peut-être celui sur lequel on a peut-être le moins d'incertitude, je dirais, d'un point de vue position. Est-ce que ce n'est pas ça qui peut le desservir et lui permettre, pourquoi pas, d'être le premier tackle drafté dans cette classe ?
Ça peut servir et desservir. Moi, pour moi, je dis tout de suite, le poste de tackle numéro 1, c'est un duel à deux entre Cross et Ekwonu. J'ai Neal derrière, pas non plus loin derrière, mais
il me semble que c'était derrière. Déjà le cas lors du podcast Tackle que vous aviez fait avec Jean-Michel.
C'est possible. Moi, je pense que Neal, c'est un peu le syndrome laser wood. Il peut jouer partout. C'est un monstre athlétique. C'est pas parce que tu es un monstre athlétique que tu es forcément un bon tackle. Enfin, bon.
C'est le plus imposant des trois. Hein. Je crois qu'il y a, il culmine à
163 kilos.
Ouais, c'est ça, ouais.
2m01, 163 kilos, je viens de faire la fiche. Du coup, j'ai bouffé pas mal de vidéos. Et c'est vrai que bon, il a quand même un QI football qui de temps en temps, est un peu défaillant, notamment dans la reconnaissance du blitz. Il a tendance à jouer sur les doigts de pied, alors qu'il est tellement dominant qu'il a juste à poser les pieds pour pousser l'autre. Et finalement, il se retrouve les fesses par terre alors qu'il n'en a pas besoin. Bon, après, il peut devenir excellent s'il est bien coaché, etc.
Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il est parfois trop facile. Enfin, ça rejoint un
petit
peu ce
que
tu dis.
C'est ça.
Mais c'est le côté, et encore une fois, je vais reprendre cette fameuse expression, mais les mains violentes, et Kwanu là aussi, mais je trouve qu'il a moins ce défaut-là, c'est le côté main violente, mais du coup, premier contact, j'arrive déjà à créer, comment dire, à créer un impact qui va laisser du temps au quarterback. Et du coup, techniquement, il se repose un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se développer, hein, très clairement. Je trouve que le plafond est intéressant. Mais pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que des fois, on se dit qu'il se met un petit peu en
difficulté. Mais il se met en difficulté tout seul. Sur des duels physiques, il doit gagner. Il se retrouve les fesses par terre juste parce qu'il a été trop facile. Et tu dis Ekwonu a un peu les mêmes défauts. C'est vrai, sauf que Ekwonu, il a beaucoup moins d'expérience et il a progressé. Neil, j'ai l'impression qu'on voit le même gars qu'on voyait en garde, qu'on voit le même gars qu'on voyait en right tackle, et qu'il n'a pas tellement travaillé là-dessus. Donc, c'est
oui,
ça
il a juste changé de position. Quoi.
C'est ça qui me rend un peu... Mais encore une fois, hein, tout étant relatif par ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va sortir au premier tour, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va sortir du top 20, mais on compare trois joueurs. Après, pour revenir sur Charles Cross, puisque j'ai décidé de ne pas répondre à tes questions par
c'est ce que je
podcast,
vois.
Je m'en rends compte, mais c'est voilà. En effet, on va dire que lui, c'est un tackle gauche. Neil, il y a les questions comme il y avait pour les Lazarus l'année dernière. Ekwonu, il y a la question tackle ou garde, comme il y avait. Je dirais Ekwonu, je comparais peut-être plus à Rashton Slater dans la question. Si on voulait faire du 1 pour 1, Neil, c'est Lazarus et Ekwonu, c'est Slater. Charles Cross, lui, c'est un tackle. Enfin, il y a pas de débat là-dessus. Il est agressif, il est mobile, il a un bon QI football. Le vrai problème de Charles Cross, et il n'y peut rien, hein, c'est qu'il était dans une université où la course n'existe pas.
Hein, ou plus, en l'occurrence. Oui. Alors, le truc, c'est ça, c'est qu'il a commencé ses tout premiers mois à Mississippi State, c'était dans une attaque où ça courait beaucoup.
Exactement.
Mais où il n'était pas forcément pleinement titulaire. Au moment où il est devenu pleinement titulaire, c'est là où ça lançait quasiment 60 fois par match. Donc là, voilà. En termes de passe pro, il a tout vu. Mais c'est sûr que tu sais ce que tu as avec lui, mais tu sais ce que tu n'auras pas aussi.
Bah, disons qu'en tout cas, on sait qu'il est excellent pour la protection de passe. On ne peut pas être sûr aujourd'hui qu'il sera excellent au niveau de la course. Il a quand même pris Damas, hein, parce qu'il faut le dire, il était... trop léger, c'est aussi ça qui a retardé un peu sa titularisation. Aujourd'hui, il a pris beaucoup de masse. On va le dire tout de suite, hein, parce que tu l'as dit, hein, c'est des cases à cocher, des machins. Là, aujourd'hui, je crois qu'il est à 305 livres ou quelque chose comme ça. S'il arrive au combine et qu'il fait 320, il va gagner 10 places à la draft d'un coup parce qu'il a pris 10 kilos, parce qu'il a pris 5 kilos. Non, mais c'est vrai. On sait que ça marche comme ça. Oui, de toute façon, il te manque 1 centimètre au niveau des bras, il te manque 1 centimètre au niveau du cuir chevelu. Par contre, tu as pris 3 kilos, bam, ah bah c'est génial, tu rentres dans les cases. Bon. Mais Charles Cross, je ne serais pas du tout étonné qu'il soit premier. Et je pense que ça dépendra plus du système de l'équipe qui sélectionne. Par exemple, un Brian Daboll. C'est quand même quelqu'un dont j'imagine essayer de mettre en place un jeu plutôt aérien. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il sélectionne un Cross plutôt qu'un Ekwonu. Après, j'en sais rien. Peut-être qu'il va avoir une approche totalement différente. On verra. Mais en tout cas, selon les coachs, selon ce qu'ils ont décidé de faire, ça peut décider de qui est numéro un sans présager qu'un soit meilleur que l'autre. En fait. C'est vraiment des gens qui correspondent à des systèmes différents.
Oui, c'est ça, très clairement. Après, voilà, Charles Cross, attention, hein, il y a quand même une base de travail. C'est, d'un point de vue technique, c'est pas celui qui s'en sort peut-être le mieux. Après, encore une fois, il n'a peut-être pas cet impact sur le premier contact que peuvent avoir ces deux comparses, aussi parce que les deux sont capables d'être un peu plus agressives sur les fameuses phases actives dont je parle souvent, à savoir sur les phases de course, hein, on l'a dit, notamment parce que voilà, c'est plus sur de la résistance qu'on va utiliser Charles Cross sur la majeure partie des snaps. Donc, il y a ça largement à perfectionner. Mais il y a largement les outils, oui, pour en faire un numéro un absolu si on n'est pas sûr, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, du fait que même si d'autres prospects sont bons sur pas mal de positions, même si on n'est pas sûr qu'il soit capable d'être excellent sur la position, notamment de tackle côté aveugle. Donc ce sera à surveiller. Toi, en l'occurrence, qui as répondu d'emblée, Charles Cross ne serait pas ton tackle numéro 1.
Pour l'instant, il est numéro 2. Mais il y a très peu de places de différence avec Ekwonu. Et je n'exclus pas qu'il finisse numéro 1 à la fin du process.
D'accord. Très bien.
Par contre, je pense que Neil restera numéro 3. Je vois vraiment un vrai gap entre Neil et les deux autres.
Moi, j'aime bien. Bah, globalement, je te rejoins. Moi, je vois toujours Ekwonu numéro 1 aussi. Maintenant, c'est vrai que Neil présente quand même des. Enfin, encore une fois, je vais revenir sur du physique pur et dur, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va jouer en sa faveur. Et après, on voit que mine de rien, ces dernières années, les tackles de Bama, Leverwood avait été très très bien. Alors, je dis pas que c'est automatique, hein, attention, parce que voilà, on a des contre-exemples, Dedrick Wills, par exemple, du côté de Cleveland. Quand il est en forme, je ne pense pas que les supporters des Browns aient de quoi s'en plaindre. Et c'est vrai que Leverwood, par exemple, a été un petit peu décoté l'année dernière lors de sa draft. Cam Robinson a quand même pas mal déçu, même si là aussi, il a eu pas mal de pépins physiques durant sa carrière. Donc c'est vrai que c'est encore très très difficile à évaluer. Je n'ai pas parlé de Jonah Williams également, qui n'est pas non plus d'une régularité bluffante. Donc,
ouais. Leatherwood, il a été bon quand il a été repositionné en garde.
Oui.
Il n'a pas été bon en tackle. Donc... Ça joue aussi. Je pense voilà. qu'il y a la similarité de Leatherwood Neil risque de jouer un petit peu.
À voir, en effet, mais ouais, je ne suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas, oui, il n'est pas numéro 1, mais voilà, il aura pour le coup pour teaser un petit peu sur le combine prévu dans quelques jours. Sa prestation peut jouer un très très grand rôle. Outre les fameuses cases qu'il pourra cocher d'un point de vue physique, ses prestations sur le terrain, bien entendu.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Termine cette émission avec notamment un chapitre receveur. Alors, je sais que tu l'adores celui-là. On va parler des unijambistes d'Alabama, comme on s'est dit en off, parce qu'on a beaucoup de mal à classer pas mal de receveurs hein, dans cette classe assez dingue, avec des profils, on va dire, très, très rapprochés malgré tout. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui oscillent un peu entre le premier, le deuxième, voire le troisième tour pour certains. Hein. En fonction des big boards, il y a quand même des joueurs qui passent du numéro 15 au numéro 120 de manière assez random. Donc, c'est assez délirant à voir. J'ai mis en face sur les deux receveurs d'Alabama qui présentent des points d'interrogation différents. Alors, qu'ont tous les deux fini la saison avec une blessure, hein, d'où la petite plaisanterie qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà, on va voir un petit peu comment ça se remet. Ces deux profils extrêmement différents. Jamison Williams peut-être un peu plus dans l'explosivité. John Metchie peut-être un peu plus dans l'art des tracés. On va répondre à la question tout de suite et après on développera. Est-ce que tu as une préférence déjà claire, nette et prononcée entre Jamison Williams et John Metchie?
Ah, tu connais déjà la réponse à cette question parce que tu avais vu les présélections des fiches draft que vous retrouvez dès mi-mars sur Touchdown.
Tout à fait, à partir du 19, ouais.
Moi, j'irai sur Jamison Williams. Là encore, j'ai l'impression que John Metchie, c'est un peu comme Desmond Ridder. On en attendait une explosion cette année et on s'est rendu compte qu'il a peut-être déjà atteint son plafond. Ça sera un bon receveur, un très bon receveur. De toute façon, c'est encore une classe extraordinaire. Mais je pense que Jamison Williams, qui a été longtemps barré et qui finalement s'est révélé cette année, là, il y a un plafond qui est très haut. Des tracés vraiment excellents. Il est explosif. C'est une menace profonde. Hein. Et c'est un joueur assez polyvalent. Je pense qu'il peut jouer dans le slot, il peut jouer à l'extérieur, il peut faire la différence. Sa blessure est quand même inquiétante parce que quand on a un joueur explosif et qu'il se blesse à la jambe, bah, il y a toujours le risque qu'il ne retrouve jamais son explosivité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait peur parfois.
Il était longtemps annoncé numéro 1 de la QV. Et c'est vrai que la blessure, ça a peut-être posé un peu plus de questions. Ouais.
Avant la blessure, je pense qu'il l'aurait été. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours. C'est dommage de dire ça, mais oui, sa blessure fait baisser sa cote. On voit des joueurs comme un Sidney Jones qui n'ont jamais retrouvé leur explosivité après une grosse blessure. Bah, ça peut arriver aussi chez les receveurs. Mais s'il retrouve 100% de son niveau, je pense qu'il a un plafond qui est plus élevé et j'aurais plus envie de prendre lui.
Juste rappeler les stats pour bien contextualiser. Donc, cette saison, Jameson Williams, c'était 78 réceptions pour 1561 yards et 15 touchdowns. Et John Metchie, donc, c'était 128 réceptions. 96 réceptions, un peu plus quand même, pour 1142 yards et 8 touchdowns. Donc, vraiment, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a le profil extrêmement vertical, extrêmement big play. Même si c'est pas unidimensionnel, parce que tu l'as dit, Jameson Williams est capable de jouer un peu partout. Et John Metchie, on est peut-être plus dans le côté receveur de possession, mais dans le côté, en effet, peut-être joueur dont on aura du mal à tirer peut-être un petit peu plus. En termes de drop, John Metchie n'est pas parfait non plus. Enfin, en tout cas, si on compare, hein, parce qu'on parle de chiffres qui donnent un petit peu le tournis, si on compare tous les receveurs, globalement, il y a quand même une certaine valeur dans pas mal de domaines. Et c'est vrai que si on prend cette donnée-là pour John Metchie, en dehors de sa blessure, il y a peut-être l'aisance à la réception qui peut poser problème.
Il a fait 8 drops, 7,3%. Il est 323e de CFB. Donc, oui,
donc ça peut jouer contre lui. Après, très clairement, et moi, c'est aussi pour ça que… Alors, je vais le dire tout de suite parce qu'on va parler tout à l'heure des receveurs qu'on va être au premier tour. John Metchie sera sans doute pas dans ce cas de figure-là, et pourtant, autant Jameson Williams sur du jeu profond peut être précieux, autant John Metchie, par exemple, en zone rouge, je pense que ça peut être un vrai danger, et ça s'est vu notamment, enfin, moi je vous rappelle encore du match contre Roger McCreary, je vais pas prendre cet exemple constant, mais le match qui sort contre Roger McCreary à Auburn, même si globalement l'attaque de Bama a pas marqué 40 points non plus sur le terrain des Tigers, l'opposition directe face à un cornerback qui est quand même annoncé assez massivement au premier tour, malgré ses problèmes de bras, la fameuse taille de bras qu'on évoquait dans un précédent podcast, on voit quand même qu'en un contre un, il est capable de faire des différences. Dans des petits espaces, c'est vraiment un joueur qui est capable de se séparer de manière assez impressionnante. Après, encore une fois, tout ne sera pas parfait dans son jeu et c'est clairement ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il est plus entre les spots 6 et 10, par exemple, sur le poste de receveur qu'entre 1 et 5. Mais très clairement, il y a quand même du matos. Après, je te rejoins. Si je devais choisir aujourd'hui, j'irais peut-être plus vers Williams. Mais c'est vrai que John Metchie, j'ai du mal à savoir s'il y a vraiment un plafond si bas que ça. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment ça peut être un solide receveur numéro 2 ou numéro 3 à l'échelon supérieur. Mais j'ai du mal à le voir en X receveur, comme on aime dire.
Ouais, mais moi, c'est une comparaison qui est moyennement bonne. Mais si on prend bêtement et méchamment les derniers duos d'Alabama, parce que tous les ans, on a un duo d'Alabama qui va à draft, on va dire que John Metchie, c'est plus Devonta Smith ou Jerry Jeudy. Et Jameson Williams, c'est plus Henry Ruggs et Jalen Waddle, quoi. Oui. Dans l'idée, en espérant qu'il conduise mieux sa voiture. C'est des goûts et des couleurs. De toute façon, on va y revenir sur la liste des receveurs de cette draft. Il y a vraiment de tout. Donc après, ce dont vous avez besoin, il y a vraiment de tout.
Alors, on y vient tout de suite peut-être à ces receveurs au premier tour. Tu me disais tout à l'heure en off qu'au niveau de ton midboard, tu avais beaucoup de receveurs, notamment dans ton top 50. Qui, pour toi, on va citer les noms un petit peu. Déjà, combien de receveurs tu as potentiellement assuré au premier tour? Combien, pour toi, ne font aucun doute à l'heure actuelle? Je parle bien hors blessure d'ici là, bien entendu. Si on reste à l'instant T, la draft a lieu ce soir. Qui, pour toi, est au premier tour en poste de receveur? Combien?
J'en ai trois pour moi qui sont assurés. Mais il y en aura plus. Mais si tu me demandes des noms, j'en ai trois qui sont assurés.
J'en ai entre trois et quatre. Donne-nous tes trois.
Treylon Burks.
J'ai le même.
Chris Olave.
Ah, lui, j'hésitais. Mais je pense qu'il y sera.
Garrett Wilson.
Pas Jamison Williams, alors, au premier tour. Par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Par rapport à la blessure. Uniquement, enfin, il a le talent au premier tour. Hein. Mais c'est uniquement, en fait, ça dépendra aussi beaucoup au combine. Je sais qu'il y a des tests médicaux, des choses comme ça et tout. Ça dépendra beaucoup de ça aussi, je pense.
Alors, on va pas refaire un podcast receveur. Lors de la dernière mock draft, il y en a beaucoup qui mettaient en avant, notamment Drake London. Drake London, pour toi, c'est pas un potentiel premier tour à l'heure actuelle?
Alors, j'en ai trois qui sont 31, 34 et 37 dans mon big board. Donc, vraiment à la limite.
Ça passe.
C'est London, Dodson et Bell.
Donc, Drake London, 31e.
Ouais. Jan Dodson, 34 et David Bell, 37.
Alors, je l'avais dit, capacité de séparation de London, ça t'inquiète pas plus que ça?
C'est pas grave. Il tendra les bras et puis il n'attrapera pas le ballon au-dessus des autres.
Bah, moi,
pour moi, Drake London, il peut devenir Alshon Jeffrey.
Ah, au mieux, il peut devenir Alshon Jeffrey.
Au mieux, bien sûr. Mais dans,
au
dans,
pire,
dans
il peut devenir Josh Dodson.
Son objectif, ça doit être devenir Alshon Jeffrey. Je sais que je ne ferai pas de séparation. Il faut que je trouve d'autres moyens de faire la différence.
Très bien. D'un point de vue vitesse, c'est pas ouf non plus, Drake London.
Moi, c'est Alshon Jeffrey, pour l'avoir connu, je te jure que c'est pas ouf non plus.
Bah, il a été deuxième tour.
Ouais.
Après, voilà, c'est encore une fois, c'est pas là, on est purement sur de la projection. Après, c'est pas dire que le joueur va pas être bon ou quoi que ce soit en NFL. Mais voilà, si on reste sur le côté, voilà, les fameuses cases, etc., c'est ce qui peut le discréditer par rapport à d'autres receveurs au premier tour.
Et je t'avoue. Ah non, mais. Alors, c'est. Pardon.
Bon, on ne peut pas enchaîner. Non, alors moi j'ai deux cas de figure. Tu parlais de Dodson et Bell. Moi j'ai deux cas de figure sur lesquels je me suis un peu gratté la tête. George Pickens. Ouais. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe qui va tenter George Pickens au premier tour. Il a eu une blessure, il a eu une longue blessure. On est d'accord. Mais je le répéterai, on est sur du profil Michael Thomas.
Oui, oui, non, mais totalement. George Pickens, je crois que j'avais reçu en numéro 1 avant le début d'année. Tout en sachant qu'il allait forcément descendre, parce qu'on savait déjà qu'il était blessé. Hein. Il se blesse, je crois, en mars ou en avril de l'année dernière. Il est revenu en fin de saison. Ce n'était pas le Pickens qu'on a connu. Après, est-ce qu'on doit le pénaliser parce qu'après 8 mois de blessure, il n'est pas à 100%?
Non. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que le gars. Non, mais moi, c'est ça aussi qui fait que. C'est le gars, on sait qu'il n'est pas à 100%, il vient et à chaque match, il claque un big play de 40 yards, quoi.
Oui. Je comprends. Mais encore une fois, honnêtement, y a peut-être 10 receveurs, si tu es amoureux, qui peuvent être au premier tour.
Carrément.
Il y a une densité qui est absolument incroyable. Tu as peut-être des mecs qui vont te dire, on en parlait tous les deux, peut-être que je te coupe un peu d'herbe sous le pied, mais tu as peut-être des gens qui vont dire, mais attendez, Christian Watson de North Dakota State,
qui
commence à monter. S'il fait un combine de fou, t'as des mecs qui vont le mettre au premier tour, mais ils auront peut-être raison.
Non, mais alors, je rebondis là-dessus parce que justement, il y a un auditeur, je suis désolé, j'ai oublié son nom, peut-être que tu l'auras, qui nous parlait notamment de Christian Watson dans les potentiels 3e, 4e, 5e tour. Moi, je le dis, Christian Watson, c'est un mec qui fait quoi? 1m94?
C'est le deuxième tour.
1m94
maximum.
Et le gars. C'est une mobilette.
C'est deuxième tour maximum.
Je ne peux pas croire qu'il ne va pas finir au premier tour. C'est impossible.
Il fait une réception au Senior Bowl. Il n'y en a pas 5 qui la font. Quoi. Non, je suis d'accord. C'est deuxième tour maximum.
Non, mais voilà. Après, il y a peut-être, on va dire, des mains qui sont moins fiables que d'autres. Mais ouais, enfin, ce que tu disais. Même moi, à un moment donné, je me suis dit... Si tu extrapoles, Wendell Robinson de Kentucky, c'est un vrai gadget player. Alors après,
pourquoi
le premier
pas.
Tour, c'est un peu haut maintenant.
Ouais, et
je rejoins totalement ce que tu as dit. Un profil comme Jahan Dodson, on sait qu'il est capable de sortir des catchs de folie, d'être une vraie menace en yards après réception. Enfin, il y a vraiment des profils extrêmement atypiques et où tu te dis, sans tenir compte du dossier médical, hein, parce que je parlais de George Pickens, en exagérant un peu, ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit undrafted. Hein, si vraiment on voit que sa situation médicale est un peu préoccupante. Il y a le cas de Justin Ross aussi, même si pour moi, Justin Ross, ce n'est plus un premier tour depuis bien longtemps, malheureusement pour lui. Ça aurait pu l'être, mais en l'occurrence, oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs aujourd'hui où on se dit qu'il y a 3-4 profils dont on est quasiment sûr qu'ils vont atterrir au premier tour. Trois, je te rejoins sur Olave. William, je rejoins un petit peu ton bémol. Et c'est vrai qu'Olave, j'ai du mal à le voir quand même au deuxième, même si on est plus sur du côté technique que hyper athlétique et impressionnant. Ce qui peut être désavantageux pour lui. Mais vraiment, on a quand même une classe.
Mais même, tu vois, je te rajoute un nom. Tu mets en 32 Jalen Tolbert de South Alabama, mm-hmm. Ça serait pas mon choix, mais je comprends.
Ça me
choque pas non plus. Il y en a vraiment beaucoup.
Ouais. Non, vraiment, il peut y avoir une surprise de n'importe où. C'est une question de profil. Si on recherche des joueurs, alors je vais pas poser le vice, mais ça aussi, je sais qu'il y a une grosse cote qui grimpe dans la rédaction de RAF de TDA. Sky Moore de Western Michigan, la petite pile électrique des Broncos. Donc, lui aussi, au combine, il pourrait marquer de gros points. Je ne sais pas si c'est vraiment un profil de par la taille qu'il a, de par le profil vraiment qu'il représente. Premier tour, ça me paraîtrait un petit peu haut, mais en tout cas, il y a un côté Elijah Moore dans Sky Moore.
Hein. Alors, je vais faire une petite confession. J'ai mis dans mon top 50 qui va être publié dans quelques jours sur Touchdown Actu. Mm-hmm. En soi, j'ai presque plus mis pour le faire connaître qu'en définitif. C'est-à-dire que là, j'ai mis 40, je pense qu'il sera un peu plus bas. Mais entre 40 et 50, j'ai essayé de mettre quelques joueurs dont peut-être on a moins parlé pour aussi les faire connaître et piquer la curiosité des gens. Il est encore brut. Il n'a pas forcément toutes les dimensions physiques, donc ça m'étonnerait que ce soit au premier tour. Par contre, je pense que ça peut devenir pas non plus un Tyreek Hill, on ne va pas abuser, mais ça, tu le dis, ça peut devenir ces petits receveurs vraiment rapides, yards après réception. Il peut vraiment être précieux et ça ne me choquerait pas qu'il aille, s'il fait un bon combine, qu'il aille choper un second tour, par exemple.
Clairement. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur les receveurs. Est-ce que tu avais quelques questions relevées dans ce que nous ont demandé nos auditeurs sur les réseaux sociaux?
Mais écoute, rapidement,
on n'a pas déjà abordé, bien sûr.
Alors, je tiens à vous dire merci à tous pour vos questions, oui. Mais 60% des questions étaient sur la défense alors qu'on avait mis dans le tweet que c'était l'attaque, hein, donc désolé, j'ai mis les questions de côté, on en parlera dans la défense. Il y avait Baptiste Louche qui disait Kenyon Green ou Tyler Linderbaum. Alors pour moi, c'est même pas une question, mais je voulais voir avec toi. C'est pas la même position, mais en gros, t'as un besoin en centre et en garde. Lequel des deux tu prends?
Alors forcément, ça va dépendre du système.
Ça, c'est vrai.
Parce que de toute façon, Tyler Linderbaum, on en avait parlé. Pour moi, Tyler Linderbaum présente plus de possibilités. Je pense qu'il sera plus à l'aise sur du pass pro que Kenyon Green a l'air d'être à l'aise sur du jeu au sol. Donc pour moi, peut-être plus Linderbaum. Après, forcément, la position de garde, encore plus un garde qui s'est excellé dans le domaine aérien, comme ça doit être la norme, entre guillemets, dans la NFL moderne. Je pense, pour répondre à la question, je pense que Kenyon Green partira avant. Et si moi, j'ai le choix et que j'ai besoin sur les deux postes, j'aurais quand même un petit faible pour Tyler Linderbaum.
Moi, c'est Linderbaum tous les jours. Il est quatrième de mon big board. Pour moi, c'est Jason Kelce 2.0. C'est Jason Kelce sans le problème de... Sans être petit, en fait. Parce que Jason Kelce était tombé au 5e, 6e tour, quelque chose comme ça, notamment à cause de sa taille. Moi, je pense que Linderbaum, ça va être un phénomène.
Je ne suis pas loin de le penser aussi. Ouais. Mais Kenyon Green, attention, c'est un bon jeu. Même si je trouve qu'il descend un peu dans certains big boards, mais de manière un peu déraisonnable, si je peux parler ainsi. Mais oui, non, je l'ai dit, franchement, en termes de passe pro, voilà, il n'est plus à présenter. On en avait déjà parlé, notamment dans le podcast Ligne Offensive. C'est un joueur qui est extrêmement complet et qui, je pense, dans un bon coaching staff, peut être un joueur extrêmement dangereux. Un joueur rapidement pro bowler, voire all pro. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'aura peut-être pas forcément cette... Je pense qu'il a un côté Charles Cross de l'intérieur, si je peux parler ainsi.
Oui, je comprends. Il y a une question qui m'a fait rire de Matteo 3240. Est-ce que tu prends Neil Equanu Cross ou Sewell Setter d'Ariso?
En gros,
donc,
qui est meilleur trio,
les trois gros tackles de l'année dernière.
C'est compliqué parce que Sewell, j'aimais beaucoup.
Moi, j'ai lu la question, je me suis dit, c'est simple. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah non, en fait, c'est compliqué.
Bah, c'est toujours pareil. Après, ça dépend comment tu juges globalement. Bon, écoute, je vais botter en touche, je te dirais quand même. Je pense que la classe de l'année dernière avait peut-être un peu plus de repères. Alors, c'est paradoxal en plus parce que c'est une classe qui sortait d'une année Covid avec notamment un PNSUL qui n'avait pas joué. Rashan Setter non plus.
Rashan Setter non plus.
Mais peut-être qu'il présentait un peu plus de certitude dans le côté tackle gauche.
Ouais, moi je prends la classe de l'année dernière notamment parce que pour une fois, moi qui ai tout en tort à draft, pour une fois j'avais raison, j'avais dit que Setter serait un phénomène. Et pour une fois, j'avais raison. Donc, je vais prendre E3 aussi. Du coup, tu t'en parlais, Tortue Minable. Je suppose que c'est un hommage à Tortue Géniale, évidemment, qui nous a tous accompagnés. Bon, il paraît que Fashion Watson en a parlé. Alec Pierce et Charleston Rambo. Très rapidement, 3e, 4e, 5e tour. C'est oui ou c'est non?
Charleston Rambo, j'ai du mal à voir un truc. Hein.
Ouais.
Très franchement. Il
moi,
a...
je pense qu'il va finir non drafté. Hein. C'est fini, là, il peut rendre.
Non drafté, je ne sais pas, mais j'avoue que les receveurs de Miami, notamment dans les bowls auxquels ils ont participé, les sessions d'entraînement, etc., m'ont pas bluffé. Et encore une fois, c'est toujours pareil, surtout dans une telle classe, il faut quand même réussir à se démarquer un petit peu. Charleston Rambo, ça ressemble quand même aux receveurs un peu interchangeables qu'on va mettre dans un effectif NFL, qui va être capable éventuellement de tirer son épingle du jeu dans un effectif, mais qui ne va peut-être pas être efficace partout. Ouais, peut-être plus aux alentours du sixième, quoi. Dans ces eaux-là, mais...
Même pas. Septième au mieux.
Après, moi, je t'avoue qu'Alec Pierce, il y a la taille qui joue en sa faveur. Là, c'est pareil, c'est un excellent receveur en 1 contre 1. Il y a quand même une belle vitesse, je trouve. Hein. C'est pas négligeable. Mais je le trouve pas... J'ai du mal encore à me faire mon idée là-dessus. Moi, je le mettrais plutôt aux alentours d'un quatrième tour à l'heure actuelle.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas un mauvais joueur, mais il pâtit encore une fois d'une classe où il y a tellement de talent que
ça.
Les autres mecs sont.
Et on l'a dit tout à l'heure. C'est sûr que après, si on dit Reader a profité de Pierce, Pierce a profité de Reader, c'est sûr que si on relativise un petit peu parce que l'effectif global est intéressant, voilà. Mais c'est sûr que on jugera toujours différemment des receveurs qu'on produit dans des contextes qui n'étaient pas hyper favorables qu'un Alec Pierce qui, bon. Voilà. Encore une fois, dans une attaque qui n'était pas non plus énormément tournée vers l'attaque, donc où Alec Pierce n'était pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un receveur qui était aussi ciblé que Jamison Williams, si je prends la comparaison. Enfin, j'ai du mal à le formuler comme ça, mais ouais, tout simplement, c'est pas celui pour l'instant qui m'impressionne le plus. Alors, ça peut changer lors du combine, mais voilà, il y a peut-être encore quelques qualités à mettre en avant, je pense, durant ce processus draft pour peut-être au moins prétendre aux 3 premiers tours vu la densité qui est à côté de nous.
Moi, je suis d'accord. Tu le regardes, tu dis c'est bien, c'est vraiment bien et ça sera un bon 4e tour. Mais il y a aucun moment où tu te dis waouh, quoi. Mmh. Tu te dis ouais, c'est bien. Donc, moi, 4e tour, ça me paraît bien. Et dernière question. Alors, je te préviens, c'est de la draft 2023. Mais je vais te dire pourquoi j'ai sélectionné. En fait, faut bien comprendre que des équipes qui vont avoir donc dans une QV présumée faible de quarterback, il y a des équipes comme les Panthers qui vont se poser la question de est-ce que j'en sélectionne un cette année ou est-ce que j'attends l'année prochaine, et il y a des équipes comme par exemple les Eagles qui peuvent se dire je vais essayer de garder des assets pour l'année prochaine si Jalen Hurts ne fait pas finalement n'est pas la réponse par exemple. Et je voulais juste ouvrir une porte pour dire que l'année prochaine, par contre, on risque d'avoir une présumée grosse draft au poste de quarterback. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends CJ Stroud, donc Ohio State, ou tu prends Bryce Young de Alabama? On ne fait pas long là-dessus, parce qu'on parle
ouais,
c'est
non,
la
non,
draft de l'année prochaine. Mais...
J'ai une préférence pour CJ Stroud quand même.
Ah, c'est dommage, on a la même du coup. J'espérais qu'on soit en opposition, mais on aura la même réponse. Donc, CJ Stroud est donc le numéro 1 de la draft 2023.
Tout à fait. C'est
annoncé. On est en février 2022 et vous êtes déjà au courant 14 mois avant. C'est ça, TDA. Enfin, c'est vous informer le plus tôt possible. Voilà, donc c'était le tour des questions offensives. On en aura, à mon avis, beaucoup plus sur la défense.
Très bien. Bah, merci encore, Victor. Et puis, merci à vous pour toutes vos questions. Et voilà, on essaiera de relancer le sujet Mais voilà, on se garde encore une fois, comme le disait Victor, vos questions de côté. On a fait le tour en tout cas sur ce podcast dilemme consacré à l'attaque. On s'intéressera, comme je disais, la semaine prochaine à la défense. Merci encore Victor d'avoir été avec moi. Pour
Merci
ceux qui
à
veulent
toi.
Te retrouver sur Twitter, Victor Roulier, tout attaché.
Exactement.
Voilà, Yellow Radio, ça pour moi-même. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. À très vite sur les antennes de TPA.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.